Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Autour de moi est fidèle au poste Philippe Christel. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Patrick.
On vous retrouve parce que le mois dernier, vous avez manqué aux auditeurs. En plus, en pleine élection russe, les gens n'ont pas très bien compris.
Enfin, bon, pourquoi j'étais pas là? Parce qu'en fait, je l'ai fêté de manière ininterrompue dans mon salon à la vodka.
Voilà.
J'étais pas en capacité de venir pontifier devant les auditeurs.
Bon, vous allez vous rattraper tout à l'heure dans la dernière demi-heure. Lucien Valdez va nous rejoindre tout à l'heure. Vous aurez remarqué, mon cher Philippe, que depuis maintenant plusieurs semaines, nos chers candidats ne parlent plus du tout de la crise. La Grèce est dans le gouffre, l'Espagne n'en est pas loin, les États-Unis atteignent toujours un endettement record et plus rien autour de la perte de notre triple A. On n'en parle plus. Écoutez, ça c'est peut-être les bonnes nouvelles. C'est la fameuse mondialisation est en marche, mais elle n'en fait plus recette, comme si nos candidats, par le déni, comptaient bien la résoudre. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Michel Quatrepoint pour son livre « Mourir pour le Yuan ». Je vais avoir énormément du mal, j'ai Yuan, hein, c'est comme Yuan, ça qu'on prononce. Bonsoir Jean-Michel Quatrepoint.
Je pense que ça peut être le Rémi aussi.
Alors, pour vous présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes journaliste économiste, vous avez travaillé aux Échos, au Monde, à la Tribune de l'Expansion, directeur de la rédaction de l'Agence économique et financière, directeur de la Lettre A, directeur de la rédaction du Nouvel Économiste, où vous avez été aussi professeur, et rédigé plusieurs livres, dont en 2008 La crise globale, et en septembre dernier Mourir pour le Yuan sort en librairie, avec comme sous-titre Comment éviter une guerre mondiale. Alors, en vous lisant, la première chose qui nous frappe, c'est que cette histoire de mondialisation que découvrent certains de nos politiques n'est pas nouvelle. Elle commence à se mettre en place à partir de la fin du 19e siècle et se terminera par un échec avec la guerre de 14. Et ce qui est troublant en vous lisant, c'est qu'elle est très similaire à cette mondialisation d'aujourd'hui.
Oui, il y a des caractéristiques similaires. À l'époque, les pays émergents étaient en fait les dominions britanniques. L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, mais aussi l'Argentine. Et il y avait des pays vaincus, et les pays vaincus, c'était la Chine. Hein, ce que nous avons, nous, occidentaux, oublié. Mais la Chine, qui était la première puissance économique mondiale au XVIIIe siècle, et s'est effondrée avec la guerre de l'opium en 1840. Guerre de l'opium, déjà, pour des questions de déséquilibres commerciaux.
Mais qui a été une véritable humiliation pour la Chine.
Oui, pour eux, le siècle de l'humiliation, disent-ils, commence avec la guerre de l'opium. Et c'est assez intéressant de... Bon, je raconte, parce que moi-même, j'ai découvert ça, des choses dont on parle peu en Occident, parce que c'était pas très glorieux pour les Britanniques et aussi pour les Français. Donc, la Chine vendait énormément de choses à l'Occident. Et les Occidentaux, les Européens en l'occurrence, étaient cinomaniaques. Ils achetaient toutes les soieries, les vêtements, les épices, etc., et le thé. Et les Britanniques achetaient tout leur thé aux Chinois. D'où un déséquilibre de balance commerciale considérable, d'autant que les Chinois se faisaient payer en monnaie d'argent. Donc double déséquilibre pour les Britanniques, qui ont cherché à équilibrer. Et donc, ils ont demandé aux Chinois de leur acheter des produits, des textiles, par exemple, des excellents textiles britanniques, ça. Les Chinois ont dit, de toute façon, nous, ça ne nous intéresse pas. Tout ce que l'on fabrique est meilleur que ce que vous faites. Donc, on voit pas, on veut bien vous vendre le thé, tout ce que vous voulez, mais on vous achète pas. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un a eu une idée de génie en disant, il faut les rendre addicts à un produit. Et ils se sont souvenus que la Chine avait introduit l'opium, non pas pour de la drogue, mais comme médecine, hein, via Macao. Et c'est les Portugais qui les premiers introduisent ça. Et ils se sont dit, on va cultiver le pavot au Bengale, dans les Indes, et la Compagnie des Indes occidentales va charger, transformer, faire de l'opium, et charger les ballots de ces navires qui revenaient à vide depuis l'Angleterre, car il y avait un double manque à gagner. Les bateaux partaient chargés et revenaient à vide, ce qui est très mauvais pour les armateurs. Donc, ils ont chargé les ballots d'opium, qu'ils ont commencé à vendre plus ou moins en contrebande à partir du port de Canton, en soudoyant les douaniers, l'administration chinoise, et vendre cette drogue à la noblesse et à la bourgeoisie chinoise qui achetait son opium avec la monnaie d'argent. Et donc, progressivement, la Grande-Bretagne a rétabli sa balance des comptes courants et les excédents chinois ont fondu. Et quand l'empereur chinois s'est aperçu que ses excédents se transformaient en déficit, ils ont commencé à menacer la Grande-Bretagne, faire des présentations, la reine Victoria, etc. Et finalement, ils ont pris le taureau par les cornes, ils ont saisi des bateaux, mis en tôle quelques commerçants britanniques, brûlé les ballots d'opium, etc. Et c'est à ce moment-là que la Grande-Bretagne a envoyé la flotte qui a bombardé Canton au nom du libre-échange. Et la première guerre de l'opium a commencé à ce moment-là, et le siècle de l'humiliation commence à ce moment-là. Alors, c'est pas la seule raison du déclin de la Chine, il y a d'autres raisons, tout ça, mais c'est très intéressant de voir que nous avons un phénomène qui ressemble un peu au déclin de l'Occident aujourd'hui, et déjà pour des questions de balance commerciale. Cette fois, c'est la Chine qui se venge.
Oui, c'est à partir de là que l'Angleterre va mettre en place, en fait, au lieu de prendre la Chine par elle-même, va mettre en place les ports et va contrôler l'économie.
Les Autres-Franches, et surtout, les Anglais ont mis la main sur le commerce chinois. C'était les fonctionnaires britanniques qui traitaient tout ce qui était import-export en Chine, à leur profit, bien évidemment. Et donc, la Chine rentre dans un processus, et la Chine ne retrouvera son indépendance réellement qu'en 1949 avec Mao Tse-Tung. Et c'est pour ça que Mao reste très populaire en Chine. Alors, il ne nie pas les crimes de tout ce qui s'est passé pendant la révolution culturelle, mais c'est pour eux, c'est l'homme qui leur a redonné leur fierté, leur indépendance après un siècle d'humiliation.
Alors Mao va réunifier cette Chine autour en fait du communisme et du nationalisme.
Oui.
Après cette réunification, après la mort de Mao, la Chine va se mettre très rapidement à l'économie de marché.
Mais c'est Deng Xiaoping, exactement.
Et alors chose surprenante, c'est que
1978.
C'est que vous expliquez qu'ils vont regarder de très près le modèle japonais au départ.
Oui, 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 oui. Alors ils le regardent notamment dans les années 80, parce que en fait il y a eu un deal qui a été passé entre.
Alors on est sur Radio Courtoisie, donc il faut pas dire un deal, il faut dire un accord.
Oui. Excusez-moi de vous reprendre. Si je ne vous reprends pas, nous serons repris.
Oui, exactement.
Donc
c'est vrai que le.
J'ai laissé passer addict, mais sur deal, j'interviens. Pardon, excusez-moi de vous avoir coupé.
Non, mais vous avez parfaitement raison. Donc cet accord, plus ou moins secret, entre les Anglo-Saxons et la Chine, s'est produit au moment de la négociation sur la rétrocession de Hong Kong. Et en fait, déjà Deng Xiaoping voulait amener progressivement la Chine à petits pas sur l'économie de marché. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en échange de la rétrocession de Hong Kong, la Chine est rentrée dans la zone dollar. Et ça, on n'a pas bien compris, en tout cas les Européens n'ont rien vu à l'époque, on n'a pas bien compris ce lien. Je vous explique. Hong Kong, sa monnaie s'indexe sur le dollar Hong Kong, avec une indexation sur le dollar américain. Mais comme Hong Kong sert de sas avec la nouvelle zone franche qui est créée à côté de Hong Kong, dans les nouveaux territoires, par les communistes chinois, et le commerce s'opère à travers Hong Kong, avec un lien entre le dollar Hong Kong et le renminbi, le yuan chinois. Donc, de facto, la Chine rentre dans la zone dollar. Et d'ailleurs, tout de suite, les groupes japonais vont comprendre, parce qu'à l'époque, il faut se souvenir que le yen se voulait une monnaie internationale. Et on pensait que le monde allait s'organiser autour de trois grands pôles, l'Europe avec l'écu, les Amériques avec le dollar, et l'Asie avec le yen. Et il faut se souvenir que dans les années, fin des années 70, années 80, le Japon était tout puissant. Il donnait des leçons aux Américains, même. Donc, l'objectif des Américains était de casser cette zone yen qui était en gestation. Avec l'appui de la Chine, d'un coup, la zone yen est mort-née, en quelque sorte. Et les groupes japonais ne s'y trompent pas, parce que quand ils voient l'opération qui se passe avec le dollar Hong Kong, ils comprennent que la Chine va devenir un réservoir de main-d'œuvre, et les groupes japonais sont les premiers à se délocaliser en Chine. Ce qui va poser des problèmes au Japon.
Oui, parce que ce que vous expliquez bien, c'est que le Japon, au départ, avait un yen qui leur permettait d'être très performant. Ils vont avoir une pression des États-Unis, vu qu'ils commencent à acheter un peu à droite à gauche les grandes entreprises américaines. Et donc le yen va être obligé de remonter.
Voilà. Et les Américains les mettent à genoux en 1985. C'est les accords du Plaza. avec l'accord de la Grande-Bretagne et de la France, à un G7, et ils obligent le Japon à réévaluer massivement le yen. Et ça, les Chinois, qui de facto ont participé à cette mise à genoux du Japon, ont bien observé la séquence, et ils disent après, dans leurs écrits, ils disent « les Américains ne nous feront pas le coup qu'ils ont fait aux Japonais ». Et alors, donc, vous pouvez toujours nous demander de révaler le yen, rien à faire. Hein. On mènera la politique que nous entendons, mais c'est pas vous qui nous ferez révaler le yen.
En même temps, ils vont s'appuyer sur les grandes entreprises américaines.
Américaines, voilà. Et c'est ça le coup de génie, on peut dire, en quelque sorte. C'est que les Chinois, qui restent quand même, pour certains, marxistes-léninistes, vont appliquer à la lettre cette phrase de Lénine, hein, c'est « les capitalistes nous rendront jusqu'à la corde pour les pendre ». Et ils vont mettre dans leur jeu les multinationales anglo-saxonnes et ensuite occidentales. C'est-à-dire que les multinationales arrivent sur le marché dans les années 80, début des années 90, sur ce marché chinois, et ils veulent prendre le marché pour vendre. Et là, les Chinois leur disent « non, c'est pas comme ça que ça va se passer ». Vous venez chez nous, d'abord vous ferez des sociétés mixtes, non pas des joint ventures, des sociétés mixtes, 50-50 avec nous, et d'ailleurs en fait c'est plutôt 51-49, vous allez transférer votre technologie et vous allez produire, non pas pour le marché chinois, mais vous allez produire pour réexporter à partir de la Chine, sur les marchés solvables, c'est les marchés occidentaux. Et soyez contents, de toute façon on vous offre notre main d'œuvre, plus une main d'œuvre bien tenue. Où il n'y a pas trop de normes syndicales, ni de grèves, ni de manifestations. Et donc, les multinationales, effectivement, ils trouvent leur compte. D'un coup, elles se retrouvent avec des marges considérables. Et la grande distribution, Walmart, le grand distributeur américain, mais aussi Carrefour et les autres, bénéficient, importent massivement des produits de Chine, obligent d'ailleurs leurs fournisseurs à aller s'installer en Chine, parce que les Chinois leur disent « si vous voulez ouvrir plus tard des hyper en Chine, il faut que les produits non seulement soient fabriqués en Chine, mais en plus qu'une partie de ces produits soit réexportée ». Donc vraiment les Chinois ont une stratégie d'État. Et petit à petit, effectivement, les multinationales viennent produire en Chine, elles accroissent leurs profits, et la Chine engrange des excédents commerciaux. C'est une stratégie mercantiliste, et cette stratégie commerciale se développe alors là de façon exponentielle. Quand on regarde les courbes, il y a vraiment un changement de rythme à partir de 2001-2002, c'est là où la Chine rentre dans l'OMC. Et on l'a fait rentrer dans l'OMC sans lui demander finalement de mettre fin au contrôle d'échange, enfin à un certain nombre de règles qu'on demande d'habitude aux pays pour le libre-échange. Et là, les multinationales, le lobby des multinationales fait pression. À l'époque, ce sont les démocrates d'ailleurs qui sont au pouvoir aux États-Unis et qui jouent à fond la carte de la Chine, c'est clair. Le lobby chinois a bien travaillé.
Alors, il y a aussi une grande naïveté qu'ont eu les Occidentaux, c'était de croire que l'économie de marché allait forcément entraîner la démocratie. Et vous expliquez que les Chinois ont bien vu qu'en Occident, l'économie avait pris le pas sur le pouvoir politique, et eux, ils vont renforcer le pouvoir politique pour contrôler l'économie.
Oui. Alors, les Chinois ont analysent les structures de pouvoir dans les différents pays, chez leurs partenaires concurrents. Et aux États-Unis, ils ont compris que le pouvoir aux États-Unis, c'est les 100 sénateurs et les lobbies. Notamment le lobby de Wall Street, le lobby de l'American Chamber of Commerce, les grandes entreprises, etc. Et donc, ils investissent sur ces lobbies et qu'ils deviennent des relais, ensuite, pour eux. Et c'est ce qui, effectivement... c'est pas ça. Nous sommes naïfs parce qu'on s'est imaginé, pendant 20 ans, on nous a expliqué, mais c'est pas gênant, on délocalise les industries de main-d'œuvre, c'est normal, le textile, l'habillement, les jouets, etc. Et nous, à nous, le design, à nous, la recherche-développement, à nous, les produits à valeur ajoutée. Sauf que c'est pas aussi simple. Parce que les Chinois, d'abord, ont vocation à tout faire. Et ils font déjà tout. Ils sont en train d'acquérir un quasi-monopole sur le photovoltaïque, on le voit. En ayant très habilement joué aussi, ils ont compris que les pays occidentaux allaient subventionner des énergies durables, donc le photovoltaïque et l'éolien, ce qui s'est passé. Et donc, ils ont commencé à vendre leur sous-ensemble des composants essentiels au photovoltaïque dont ils ont quasi-monopole. Et ensuite, ce sont les contribuables occidentaux qui ont financé les importations de produits chinois. Et puis, dans une deuxième étape, les Chinois sont montés en gamme, ont fabriqué l'ensemble des produits, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, à des coûts 3-4 fois moindres que les panneaux allemands ou américains. Hein, et ils cassent le marché, les autres font faillite, et à ce moment-là, ils sont en situation de monopole. C'est classique.
Surtout que certains qui nous parlent encore du textile, on voit bien que la Chine effectivement est devenue aujourd'hui le numéro un de l'informatique, le chemin de fer, cette attaque au nucléaire, à l'aéronautique,
l'automobile
et tout ça avec l'aide des Européens et des Américains qui sont obligés de s'installer. Il y a un moment, on se demande est-ce qu'on est aveugle ou impuissant dans cette histoire.
Non, mais il y a un moment où l'intérêt des multinationales n'est plus celui de leur pays d'origine. Et ça, c'est un problème de fond. Car, prenez Apple, merveilleuse réussite. Bon. Mais quand on creuse le phénomène Apple, on se rend compte que la valeur ajoutée pour les États-Unis n'est pas si importante que ça. Sur un iPhone, ça, il faut avoir un petit tableau pour expliquer, mais on a les coûts de fabrication. Tous les produits d'Apple sont assemblés en Chine chez Foxconn, une société qui est maintenant connue, première entreprise, premier employeur mondial, avec un système où les ouvriers et les ouvrières sont logés sur place et travaillent jusqu'à 60 heures. Ce qui permet effectivement de... Vous êtes une société américaine, Hewlett-Packard, Apple, etc., et vous avez besoin de donner un coup de fouet. Instantanément, vous avez la masse des dizaines de milliers d'ouvrières qui peuvent venir assembler jour et nuit dans les lignes de production d'Apple. Et en plus, ils ont développé autour une série de sous-traitants qui ont réussi, qui se sont équipés avec des matériels d'ailleurs très modernes. Je pense à ceux qui fabriquent les écrans des Apple ou des iPad, parce que ça coûte très cher de faire du verre. Le verre, ça nécessite de gros investissements. Mais les Chinois ont tout l'argent qu'ils veulent, gratis. C'est-à-dire, c'est un dumping dont on parle peu. On parle de dumping social, dumping monétaire. Mais le dumping en capital est très important. Quand vous êtes dans des industries très capitalistiques qui nécessitent de la mobilisation du capital, important, tout capital, il a un coût. Hein. Soit il faut rémunérer les actionnaires, soit il faut payer les dettes. Mais quand vous avez un État ou des banques chinoises qui vous donnent tout le capital que vous voulez sans payer d'intérêt, quasiment gratis, c'est un sacré avantage. Et Apple et Foxconn ont pu développer l'iPhone parce que c'était installé à côté une nouvelle entreprise chinoise sur fond d'État qui pouvait fabriquer à des coûts compétitifs instantanément les écrans nécessaires aux iPhone et aux iPad, ce que Corning aux États-Unis ne pouvait pas faire dans les délais, dans les conditions et aux coûts, etc. Donc on voit bien que à partir d'un petit produit comme ça, c'est toute la chaîne de valeur qui s'était exportée, expatriée, délocalisée. Et c'est ça qui est grave. Que vous fassiez du montage, que vous alliez chercher certains composants là où c'est les plus performants, bien sûr. Mais à partir du moment où vous perdez, surtout sur les produits d'autres technologies, vous perdez la maîtrise d'œuvre de l'assemblage, là, d'abord, ça coûte très cher en termes de balance commerciale, et ensuite, un jour, vous risquez de perdre l'ensemble, la maîtrise d'œuvre, le savoir-faire. Il ne suffit pas d'avoir de la R&D et de faire du marketing. Il faut aussi faire... Alors là, je suis obligé d'employer un terme anglais.
Bon, allez-y.
Non, mais c'est... Parce que j'ai cherché à le traduire. Ça s'appelle le scaling. Le scaling, c'est la première mise en production du produit qui a été dessiné, conçu. Vous avez des prototypes. Et ensuite, il faut le mettre sur une chaîne de production de masse. La mise à l'échelle, qu'on dit. Et ça, les Américains ont perdu ça. Alors depuis 2-3 ans, il y a un débat aux États-Unis. Certains industriels disent qu'il faut absolument, notamment le président fondateur d'Intel qui se bat pour ça, il faut qu'on récupère le savoir-faire dans le scaling, dans la mise en production. Mais évidemment, une usine aujourd'hui, ça coûte 3, 4, 5 milliards de dollars. Et les multinationales américaines ne veulent plus investir. C'est ça qui est terrible. Ils n'investissent pas. Ils préfèrent accumuler des montagnes de cash. Et Apple à 100 milliards de dollars de cash dont ils ne savent pas quoi faire. C'est ça, le capitalisme va mourir de ça. Le capitalisme, il faut investir. Ils n'investissent pas, ils dorment sur leur cash. Alors maintenant, ils disent on va le redistribuer aux actionnaires, qui sont pas seulement les actionnaires américains, les actionnaires, les fonds d'investissement, etc. Mais le peuple américain ne profite pas beaucoup. Il n'y a pas de retour sur investissement. Et Apple paye très peu d'impôts, comme toutes les multinationales, sur le sol américain. Il garde ses bénéfices hors des États-Unis. Ça, c'est un énorme problème pour tout l'Occident.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie et nous recevons Jean-Michel Quatrepoint pour son livre « Mourir pour le Yuan ». Philippe Christel.
Oui, on décrit les multinationales et puis il y a quand même celles qui continuent quand même à faire équipe avec le pays dont ils sont issus. On a vu récemment les résultats somptueux de des constructeurs automobiles allemands.
L'Allemagne est l'exception.
L'Allemagne est l'exception.
On va parler de l'Allemagne.
L'Allemagne est l'exception.
Vous en faites pas, mon cher Philippe.
Non,
on va en parler. juste pour terminer avec la Chine, il y avait un domaine où on était persuadé, en tout cas les Anglo-Saxons, qu'ils étaient les rois, c'était la finance, et la Chine est en train d'arriver et de racheter les banques.
Alors, elle a pris au moment du creux de la crise, elle a pris des participations dans les banques. Mais la Chine a une stratégie sur la finance. On peut dire qu'elle veut progressivement se substituer aux grandes places anglo-saxonnes. Alors, déjà, Singapour est en train de prendre une part du marché des banques suisses. Car les Suisses ont été obligés de passer un certain nombre de conventions avec l'Allemagne, les États-Unis, etc.
Harcelés.
Oui. Donc, un certain nombre de détenteurs de comptes en Suisse n'ont pas envie que le fils de leur pays d'origine sache qu'ils ont des comptes en Suisse. Donc, ils se sont exfiltrés d'ores et déjà sur Singapour. Et effectivement, je pense qu'avant que le fisc américain puisse faire pression sur Singapour, il coulera de l'eau sous les ponts. Donc Singapour est en train de prendre la place des banquiers suisses. Deuxième objectif, c'est que Hong Kong devienne une seconde city. Et en attirant, notamment pour la cotation, pour un certain nombre d'opérations financières où le yuan devient une monnaie, on peut acheter des yuan, on peut acheter des obligations libellées en yuan à Hong Kong. Hong Kong sert de terrain d'expérimentation pour l'internationalisation du yuan. Car les Chinois, là aussi, ont une stratégie à 10 ans. C'est de monter progressivement vers la convertibilité du yuan, mais à leur rythme, non pas au rythme qu'on voudrait leur imposer, et à chaque fois en testant s'il n'y a pas plus d'effets pervers et d'inconvénients que d'avantages. Mais l'objectif à terme de 10 ans, c'est de devenir effectivement la peut-être première puissance financière mondiale. Et là, déjà, ce qu'ils ont fait, c'est... Je sais pas si vous avez vu, c'est passé inaperçu parce que c'était au moment de Noël. Ils ont passé un accord avec le Japon où ils ont décidé... Alors, parce que la Chine et le Japon, il y a quand même de lourds contentieux depuis longtemps. Eh bien là, ça veut dire que le Japon sent le vent tourner. Donc, ils ont passé un accord où les deux pays s'engagent à faire certains de leurs échanges dans leurs monnaies respectives, en se passant du dollar. Et là, il y a un accord qui vient d'être pris avec les BRICS, c'est-à-dire les pays émergents, où là aussi, et c'était les Chinois qui avaient lancé le débat il y a un an déjà, par des articles, parce que les Chinois pensaient toujours de la même façon. Ils font faire des articles dans la presse chinoise occidentalisée par des seconds couteaux, mais qui ont l'aval du centre, du sommet, et qui servent de test. Et ces seconds couteaux expliquent ce qui pourrait éventuellement se passer dans les prochaines années. Ils testent les idées. Et là, ils avaient, il y a un an, expliqué que, effectivement, les BRICS qui...
On va peut-être rappeler aux auditeurs les BRICS.
C'est les pays émergents, c'est bien évidemment la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud. Et disant, nous avons un commerce très important entre nous, eh bien, pourquoi que ce commerce doit-il être libellé en dollars? Il n'y a pas de raison. Nous pouvons parfaitement libeller dans nos monnaies, voire demain peut-être avec une monnaie, et cette monnaie étant le yuan, évidemment, la monnaie du pays le plus puissant. Mais ça y est, ça commence à se mettre en place. Donc, ils vont pas partir billes en tête contre le dollar, mais ils s'attaquent au rôle du dollar comme monnaie de transaction internationale.
On a vu cette semaine la réunion des BRICS plaider pour la réflexion sur une sorte de FMI commun qui fasse voilà. Donc on est au-delà de la simple monnaie. L'idée c'est aussi de pourquoi pas réfléchir à une institution financière commune, nous évitant de passer par les fourches collines du FMI.
Alors avant de passer à l'Allemagne et à l'Europe, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, je vais voir rapidement avec vous un chapitre qui m'a quand même étonné. Votre deuxième partie que vous appelez la déception d'Obama, vous analysez l'endettement américain et les puissants lobbies américains. Mais avant d'en reparler, j'aimerais une explication du titre. La déception d'Obama, vous êtes quand même un journaliste expérimenté. Aviez-vous le début d'une illusion sur un changement avec l'arrivée d'Obama en tant que président ?
Il avait une fenêtre. Il avait une fenêtre parce qu'il faut se souvenir qu'il est arrivé, Bush était quand même assez déconsidéré, et surtout, il y avait la crise. Les gens étaient paniqués. Et là, il avait une fenêtre de 100 jours. Qu'aurait-il pu faire en 100 jours ? Il aurait pu mettre la finance à genoux. Il avait le pouvoir de le faire. Et il a fait un magnifique discours. Son discours d'investiture est magnifique. Et puis Obama était très fort pour les discours, beaucoup moins pour l'action. On en connaît d'autres.
Oui, hein, ça ne sera pas le...
Et Obama, en fait, est un homme de compromis. Et c'est pas un homme qui tape du poing sur la table. Alors que là, il eût fallu quelqu'un qui tape du poing sur la table et qui mette un peu les lobbies à genoux. Alors, moi, je pense qu'il aurait dû nationaliser Grand Banque parce que le pouvoir, il était à Wall Street. Alors, c'est vrai que Wall Street était plutôt démocrate que républicain.
Oui, parce qu'on a dit que c'est eux qui ont financé sa campagne.
Et puis, quand même, dans les années 80, fin du siècle dernier, toute la déréglementation financière, elle a été faite par les démocrates.
Oui, sous l'époque de Clinton.
Clinton, et par l'équipe, d'ailleurs, qui s'est retrouvée dans l'entourage de Obama. Car Tim Geithner venait de l'équipe Clinton, comme Lawrence Summers, secrétaire d'État, comme Rubin n'était pas là, mais c'était un peu les enfants de Rubin, qui était secrétaire d'État au Trésor. C'était la bande Goldman Sachs, comme on les appelait. Donc, il y avait une collusion manifeste. À partir du moment où le parti, Hillary Clinton, etc., on lui a casé, en quelque sorte, l'équipe, c'était fini. Quand vous mettez Tim Geithner, qui était le patron de la fête de New York, donc un des acteurs de la crise, Lawrence Summers, qui est l'homme qui a cassé le Glass-Steagall Act, et qui a joué totalement en faveur des grandes banques, des grandes banques d'investissement. Donc à partir de ce moment-là, c'était fini. Mais il y avait une fenêtre, car les Américains auraient pu faire ce qu'ont fait les Britanniques avec Royal Bank of Scotland, nationaliser les 18 grandes banques, virer les conseils d'administration, virer les dirigeants, et ensuite les remettre sur le marché. Les assainir et les remettre sur le marché ensuite. Bon. Il ne l'a pas fait.
Ce qu'il a fait pour l'automobile.
Ce qu'il a fait pour l'automobile, exactement. Ouais. Et sur l'automobile, ça a marché.
Oui. Ah oui.
C'est la seule chose qu'on peut mettre à son actif. Ça a marché. Alors, il connaissait mieux l'automobile parce qu'il venait de l'État de l'Illinois. Et qu'ensuite, les syndicats ont joué le coup. Mais ça a marché. Il ne l'a pas fait pour Wall Street parce qu'il y avait le lobby dans les murs même de la Maison Blanche.
Ouais.
Et alors après, ça a été effectivement le jeu d'essuie-glace, un coup de balancier à droite, un coup de balancier à gauche. Il a été à Canossa après les mid-terms, où il a été obligé de prendre Jeffrey Immelt, qui est le patron, enfin qui est le PDG de General Electric, comme chef de ses conseillers économiques. C'est-à-dire qu'on a fait rentrer le principal loup dans la bergerie. Et General Electric, c'est quand même la multinationale qui est la championne de l'évaporation fiscale, puisque de ce qu'on appelle l'optimisation, puisqu'ils ont un staff de 950 personnes qui ne travaillent que pour ça. Comment pomper le maximum de subventions à l'État américain et comment payer le minimum d'impôts.
Alors,
vous abordez rapidement, mais c'est parce que ça m'a quand même intrigué. Vous abordez rapidement le problème de la monnaie et de la réserve fédérale. Alors nous avions fait une émission avec Étienne Chouard sur le sujet, mais vous reprenez cette thèse que je connaissais pas en fait, cette thèse de l'assassinat de Kennedy en expliquant que la décision de reprendre en main la fabrication du dollar. Alors c'est une thèse qui est à mon avis.
Je ne comprends pas.
Vous quand même aurait été une des raisons de son assassinat et que la première mesure que Johnson aurait repris, c'était que cette monnaie américaine qu'ils auraient créée a été annulée.
Il y a eu deux présidents assassinés, si je me souviens bien.
Oui.
Hein, il y a eu Abraham Lincoln.
C'est ça.
Hein, et il y a eu John Fitzgerald Kennedy. Et il se trouve que ces deux présidents avaient battu monnaie pour leur compte. Abraham Lincoln avait battu monnaie parce que les banquiers avaient refusé de le lui prêter pour la guerre de sécession. Et donc comme il fallait qu'il paye ses soldats et qu'il achète ses matières premières, il avait commencé à imprimer des US notes. Voilà. Et la première décision de son successeur a été de supprimer les US notes et de redonner le privilège de battre monnaie aux grandes banques privées. Bon. Et John Fitzgerald Kennedy, effectivement, avait amorcé la même chose. Alors, je pense que JFK, son assassinat, est le fruit, disons, d'une opposition multiple venue d'horizons fort divers. Et chacun fermant les yeux sur la main qui a armé les tueurs. Mais ce qui est clair, c'est qu'une des premières conséquences, c'est que on est revenu au bon vieux système où c'est la Fed qui est une institution privée, qui bat monnaie.
Et vous l'expliquez, c'est Lynott Johnson qui va retirer de la circulation les 4 milliards de dollars de US notes que le Trésor avait commencé
à émettre.
Alors, on va arriver à l'une des deuxièmes grandes parties de votre livre, c'est l'Allemagne, et on va revenir peut-être un peu en arrière. Ce qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'en ce moment l'Allemagne est beaucoup critiquée, c'est que sur la première mondialisation, vous expliquez que pour les libéraux, l'échec de cette libéralisation, de cette mondialisation, c'est l'attitude de l'Allemagne qui ne voulait pas jouer le jeu. Alors en caricaturant, on trouve à l'époque que Bismarck fait trop de social avec son peuple.
Oui. Alors en fait, il fait du social avec son peuple parce que c'est déjà l'accord entre les syndicats naissants, la classe ouvrière naissante et le patronat, et avec l'État au milieu. C'est de dire, je préfère, effectivement, c'est lui qui a inventé la sécurité sociale.
Ouais, hein. Oui.
Donc, je donne à la classe ouvrière des avantages sociaux, je partage en quelque sorte les fruits de la croissance pour éviter qu'il ne bascule du côté des socialistes. Parce qu'à l'époque, parti socialiste naissant, sans parler des communistes qui ont émergé, donc c'est une question de marketing politique, donc on fait un accord entre le patronat et les syndicats des salariés, et pour finalement, c'est le Standard Deutschland, c'est-à-dire on joue l'Allemagne. Et c'est ce que, effectivement, les libéraux reprochent aux Allemands, d'avoir eu une stratégie mercantiliste, qu'ils ont toujours, c'est dans leur gène, hein, et d'avoir été tenté par des mesures protectionnistes, effectivement, et ensuite, bon, il y a eu tout ce qui a amené à la Première Guerre mondiale. Mais globalement, l'Allemagne continue. Vous savez, les peuples, comme les individus, ils avaient des gènes, et ça se retrouve. La force de l'Allemagne, c'est de ne pas avoir eu de colonies. On l'a, en quelque sorte, privé de colonies. Et à partir de là, ils ont été obligés de développer des produits d'excellence et d'exporter. Et d'exporter à partir de comptoirs commerciaux et de diaspora.
Il faut dire que l'Angleterre, déjà, dès le 19e, avait mis un système de protectionnisme sur les produits allemands.
Bien sûr. Et les Allemands ont compris aussi l'importance de l'industrie et de la formation et de l'innovation. Voilà. Toutes choses qu'on retrouve aujourd'hui. Ce sont des constantes du pays. Ils jouent groupés, c'est clair.
Oui, parce que vous expliquez très bien que contrairement à la France, les grandes industries allemandes, qui disons l'équivalent de notre CAC 40, marchent main dans la main avec la politique allemande. Je vous cite, le projet géopolitique du pays se confond avec le projet géostratégique de ces groupes. On rêverait de ça en France.
Oui et non. Pourquoi il faut se replacer en 1945. la classe politique allemande a disparu. La classe dirigeante tout court, sauf les industriels. Et sauf la Bundesbank, que l'on va créer une institution, hein, et qui, vous allez avoir deux piliers, ce sont les groupes industriels et la Bundesbank, qui vont assurer la reconstruction de l'Allemagne. Accessoirement aussi, le fait qu'on ne va pas leur faire payer de dommages de guerre, hein, ce qu'on a oublié. Les Grecs l'ont rappelé là, récemment. Oui. Donc on va effacer leurs dettes et il va y avoir le plan Marshall. Parce que très vite, pour éviter que l'Allemagne ne bascule et risque du côté des communistes, avec le rideau de fer qui tombe, donc à partir de là, effectivement, non seulement on efface les dettes, mais on injecte de l'argent et la reconstruction allemande s'opère à ce point-là. Mais elle s'opère à partir de deux piliers. Les groupes industriels, hein, qui n'avaient pas été vraiment démantelés, hein, et la Bundesbank, qui devient le gardien du temple, en quelque sorte, hein, la monnaie. Bon, en faisant croire d'ailleurs que l'inflation est le mal absolu et que c'est à cause de l'inflation que Hitler est arrivé. Donc, inflation égale Hitler, donc tout faire pour éviter l'inflation. Ce qui est faux. Hitler, c'est pas l'inflation qui a amené Hitler, c'est la déflation. Hein. L'inflation, c'est 1923. Hein, et quand Hitler arrive, il arrive après 2 ans de déflation, de crise que nous connaissons aujourd'hui en Europe, même type. Hein, c'est-à-dire chômage de masse, plus quelques grandes faillites bancaires, dépression, etc. Et Hitler arrive là-dessus. C'est pas l'inflation qui le fait arriver, c'est la dépression qui le fait arriver. Mais la Bundesbank réussit à faire croire ça, après-guerre, dans l'inflation, c'est le mal absolu, parce que l'inflation égale Hitler. Bon. Et l'autre pilier, c'est effectivement les groupes industriels, dont la stratégie va servir, l'Allemagne va se... sa puissance va s'extérioriser dans la puissance de ces groupes industriels et non plus dans un projet politique ni dans un projet militaire. Puisque ça, ils ont été vaccinés et on peut s'en féliciter. Mais du coup, effectivement, c'est les patrons de Siemens, de Daimler qui... Madame Merkel s'entretient en permanence avec eux, etc. Et donc, l'Allemagne aussi s'interdit, par exemple, toujours d'avoir un outil de défense.
Oui, ça vous en parlez.
Oui, ce qui nous pose un vrai problème.
Ce qui pose un problème.
Ce qui pose un énorme problème à l'Europe, hein, que l'on gomme complètement aujourd'hui des débats, mais qui est un problème essentiel. Hein, car, on va en parler plus tard, mais moi je ne connais pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité qu'un territoire qui reste riche, hein, qui a des ressources, qui est désarmé et qui ne fasse pas l'objet d'une prédation, quelle qu'elle soit, de quelque nature qu'elle soit.
Et c'est le même cas au Japon.
Et c'est le même cas pour le Japon. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Nous recevons Jean-Michel Quatrepoint pour Mourir pour le Yuan. Autre chapitre que vous abordez qui, en France, on en parle rarement, c'est la réunification. On en parle peu, je ne sais pourquoi, mais...
Ah, parce que ça remonte à plus de 20 ans.
Oui, mais enfin, c'est l'énorme sacrifice que l'Allemagne a fait. Par exemple, pour expliquer, et là, l'industrie allemande va perdre énormément, vous expliquez qu'à l'époque du mur, les industries de l'Ouest profitaient déjà de la main-d'œuvre de l'Est, parce que à l'époque du traité de Rome, on ne reconnaît pas l'Allemagne de l'Est, ce qui va permettre aux industriels allemands d'avoir de la main-d'œuvre de l'Est pour faire leurs pièces détachées. C'est ce système qui vont ensuite... mettre en place dans les pays de l'Est. Ça, c'est une grosse perte et la réunification va coûter très cher.
Elle coûte très cher à l'Allemagne. Les industriels allemands et la Bundesbank ne souhaitaient pas qu'il y ait un échange monétaire sur la parité de 1 pour 1. Je crois qu'à l'époque, l'écart de valeur entre l'Ostmark et le Deutsche Mark était de 1 à 6, 1 à 7 à peu près. Et les gens disaient, ben, on va faire du 1 pour 4. Et c'est là où Kohl, Helmut Kohl, a pris une décision politique. Je pense qu'il a eu politiquement raison. Helmut Kohl était un sacré ouais. personnage. Vous nous avez raconté ça. Vous avez dit, vous savez, j'étais devant à Dresde. Il y avait 200 000 personnes. C'était nos frères de l'Est, bon, qui étaient là. Et j'ai réalisé que si on ne faisait pas l'échange un pour un, voilà, eh bien, cette masse de gens
allait venir
à l'Ouest. Donc, pour les tenir sur le, il faut que le capital aille vers les hommes, et non pas que les hommes aillent vers le capital. C'est une phrase très, très importante. Et donc, c'est là où j'ai décidé le 1 pour 1. Et il l'a décidé contre la Bouba, effectivement, et contre les groupes allemands. Car ça a eu un coût considérable. Alors, bien sûr, ça a tenu la population en Allemagne de l'Est, dans les pays de l'Est, mais il a fallu fermer les usines, parce qu'il était absolument plus compétitif d'un coup, et les pays à rien faire. Alors, les former à d'autres, mais les pays à rien faire. Et en même temps, il a fallu que les groupes allemands retrouvent une zone arrière qui soit de la même qualité que... Donc ils ont été... C'est pour ça qu'ils ont poussé instantanément à l'élargissement. L'élargissement qui nous a été imposé, à nous Français notamment, on ne nous a pas demandé notre avis, ni aux citoyens, ni à personne. Ce sont les Allemands et les Américains, pour des raisons différentes, qui ont imposé l'élargissement. Et cet élargissement, les Américains, c'est pour des raisons stratégiques, et en se disant il faut casser l'URSS, hein, et que ces pays soient récupérés par l'Europe, et c'est l'Europe qui va payer leur développement, c'est pas nous qui allons le payer. Hein. Et deuxièmement, l'Allemagne s'est dit ben, finalement, on va les récupérer parce que ça va nous servir de base arrière pour nos industriels. Tchéquie, Pologne, Hongrie, qui était la zone naturelle, effectivement, de l'Allemagne. Sans parler de la Slovénie et de la Croatie, que l'Allemagne a reconnue unilatéralement, sans demander l'avis de personne. Parce que les Allemands, il faut être clair, quand ça les arrange, ils demandent l'avis de personne. Quand ils décident de sortir du nucléaire, ils préviennent personne. Hein. Donc, quand c'est leurs intérêts qui sont en jeu, ils ne sont pas très européens.
Mais c'est là qu'on s'aperçoit de la grande différence avec la France, parce qu'on s'aperçoit qu'avec la construction européenne, l'Allemagne, elle n'a pas perdu ses objectifs en tant que nation indépendante, mais la France a détruit ses principaux atouts, et vous datez de cette destruction sous l'époque de Mitterrand, c'est-à-dire à l'époque où la France a quand même une industrie, où le privé et le public vont marcher ensemble pour créer des monopoles forts, Mitterrand en France, parce qu'on diabolise souvent cette mondialisation, cet ultra-libéralisme par Thatcher et Reagan, mais ce sont des sociodémocrates et des socialistes qui vont ouvrir le marché en France, c'est à partir de Mitterrand.
Oui, c'est Soubirous-Gauvois, essentiellement. C'est 89, recarme essentiellement la libéralisation financière, c'est à partir de 88. Bérégovois est aux finances et Rocard est premier ministre, hein, et ça se poursuit jusqu'en 92, 93, etc. Les avantages donnés aux grands groupes, je pense notamment à la fiscalité très avantageuse du bénéfice mondial consolidé, etc., négocié par la FEP à l'époque et Ambroise Roux, ça a été négocié directement avec Soubirous-Gauvois et avec les hauts fonctionnaires des finances, hein, dans le plus grand secret d'ailleurs. Et ça remonte à là. Les années 90, il faut bien comprendre que l'URSS s'étant effondré, le communisme s'étant effondré. Effectivement, on pense que finalement, l'économie de marché, le libéralisme est l'horizon indépassable de l'humanité. Et que le libre-échange, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà. Et à partir de là, on n'a pas compris que le libre-échange, c'est une bataille quotidienne. Une bataille de chiffonnier où à la limite tous les coups sont permis. Et que les naïfs sont ceux qui respectent apparemment les règles. Hein, mais chaque nation existe toujours, c'est ça qu'on a oublié. Les nations existent toujours. Et en tout cas, les pays émergents se vivent comme des nations, les États-Unis se vivent comme une nation, et l'Europe, l'Allemagne se vit quand même comme une nation, qu'on le veuille ou non. Et nous, nous avons été naïfs, c'est-à-dire qu'on s'est imaginé finalement que les élites françaises ont fait un pari. Elles se sont dit, bon, l'industrie, de facto, on le laisse à l'Allemagne, hein, sans le dire. Mais d'ailleurs, c'est ce que les Allemands ont cru. Les Allemands ont pensé que nos élites, de facto, leur abandonnaient l'industrie. Alors, il y a eu des tas de petits signes qui se sont produits, notamment EADS. Quand on a négocié la création d'EADS, la part des Allemands représentait 40%, les Français 60%. On leur a donné un 50-50. Bon. Et les Allemands se sont dit, s'ils nous donnent 50-50, c'est finalement à terme. Ils reconnaissent que petit à petit, c'est nous qui prendrons le leadership. D'ailleurs, c'est normal, l'aéronautique, hein, c'est l'Allemagne. Hein. Dornier, Messerschmitt, vieille tradition. Effectivement, on a fermé un certain nombre de sites. Et surtout, on a misé sur le CAC 40. Et on s'est imaginé que le CAC 40 allait remplacer le tissu industriel en dessous. Et c'est ça le drame de notre pays, c'est que par rapport aux Trente Glorieuses, dans les Trente Glorieuses, il y avait des grands groupes, mais il y avait aussi un tissu de moyennes grandes entreprises. Ces moyennes grandes entreprises ont été soit absorbées par les grands groupes, soit vendues à l'étranger parce que les fondateurs étaient arrivés à l'âge de la retraite, etc. Et derrière, il n'y a pas eu de relève prise. Et donc on a un no man's land entre les TPE, les auto-entrepreneurs, etc., et le CAC 40. Le tissu industriel intermédiaire a bien du mal à survivre. Alors que les Allemands ont préservé leur tissu intermédiaire.
Alors, même dans les grandes entreprises, parce que votre meilleur exemple, c'est la comparaison entre Alcatel-Alstom et Siemens, qui est deux entreprises qui étaient équivalentes il n'y a pas si longtemps. Et on a vu la stratégie d'Alcatel qui s'est effondrée. Et aujourd'hui,
Siemens, c'est un scandale absolu, ça. Péchiné. L'histoire Péchiney et Alcatel sont des scandales absolus. Le management est éminemment responsable.
Aujourd'hui, en fait, Alcatel ne fait plus que de la téléphonie qui est faite en Chine.
Ah ben non, mais il fait rien. C'est les produits sont chinois.
Voilà.
et ce qui fait que nous étions quand même l'un des leaders mondiaux dans les télécommunications. Dans les années, la France avait un très grand retard dans le téléphone dans les années 70, parce que ça reste un des atouts de Giscard qui avait fait le téléphone et le nucléaire. On a remonté la pente dans les années 70. Mitterrand a maintenu le truc, et la France est devenue effectivement l'un des leaders mondiaux. Les technologies du temporel, enfin du numérique, des centraux numériques, c'est la France qui les avait. Et puis tout ça a été quasiment abandonné. Et aujourd'hui, on a fermé les usines, on a disséqué, on a vendu les usines à des fonds d'investissement, etc. On a été saisi par une sorte de délire financier. On a découvert la finance. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les PDG ont découvert que effectivement, ils pouvaient passer de leur salaire en francs au salaire en euros, plus les stock options. Et d'un coup, vous avez toute une génération de cadres dirigeants qui étaient saisis par le démon du pognon, soyons clairs.
Et puis ces fameuses grandes alliances avec l'outre-Atlantique,
oui,
le cas d'Alcatel,
ça c'est le mythe du débarquement aux États-Unis. Ça n'a jamais marché. Mais nous avons effectivement perdu des positions à ce moment-là. Et finalement, le CAC 40. Bon, il y a des entreprises, par exemple Michelin. Michelin est une entreprise familiale, était une entreprise familiale, qui a tenté de préserver au maximum et qui tente encore de préserver le maximum de valeur ajoutée sur le territoire, notamment le centre de recherche, etc. Ça, je crois qu'ils le préserveront. Mais c'est vrai que la tentation est grande. Quand votre marché, il est le CAC 40 fait, je crois, 1350 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé. 75% est fait hors de France. Bon, tout à fait naturellement, vous êtes enclin à aller voir ailleurs. Et puis vos actionnaires, les actionnaires, ils sont à plus de 50% étrangers. Et puis ce sont souvent des fonds d'investissement anglo-saxons qui vous mettent la pression sur le quarterly. Si vous dites à un moment donné, écoutez, moi je préfère privilégier un investissement sur le sol français parce que, même si ça coûte un peu plus cher, mais au moins c'est sur mon territoire, je contrôle mieux, etc. Les analystes anglo-saxons vont vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce fou ? Vous devez optimiser. Moi j'ai un ami qui fabrique un nouveau produit qui est un boîtier un peu révolutionnaire. On reste bon en monétique. Donc c'est un terminal qui sert de lecteur de cartes, mais qui aussi peut servir pour prendre des commandes. Donc dans tout ce qui se développe aujourd'hui, les signatures authentifiées, dans les restaurants vous avez les boîtiers prises de commandes, mais le boîtier prise de commande ne fait pas non plus lecteur de cartes pour le paiement. Donc là, il a inventé un truc. Donc c'est très intéressant. Ils ont fait le dessin, les ingénieurs. Et il assemble, ils ont levé quand même plusieurs millions d'euros, il commence à avoir des clients, là il veut refaire une deuxième levée de fonds, et il assemble en France. Pourquoi il assemble en France ? Alors les composants viennent du monde entier. Il va chercher au Japon, à Singapour, certains composants, parce qu'on va chercher les meilleurs. Mais on assemble en France, parce qu'il dit à juste titre, moi je veux contrôler le savoir-faire. Si j'assemble en Chine, je vais me faire piquer l'idée. C'est fini. Hein, j'aurais beau continuer à dessiner, à innover, ils me piqueront le truc. Tandis que là, je contrôle la fabrication. Eh bien, quand ils expliquent à des fonds d'investissement que les types disent, bien évidemment, vous fabriquez en Chine. Ils disent, non, je fabrique à Guyancourt. Ils disent, ah, mais monsieur, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais si, ça peut marcher. Mais il y a un tel état d'esprit qui s'est mis dans la tête des analystes, des anglais. Il faut fabriquer, il faut délocaliser. C'est pas vrai. Surtout que la part de la main-d'œuvre devient très faible, finalement, dans les produits à valeur ajoutée. Donc on peut relocaliser de l'activité. Hein, ça ne veut pas dire qu'on est contre le libre-échange. On va chercher des composants là où ils sont les plus performants. Mais il faut, je crois que la clé, c'est la même chose pour l'IFO, les produits de nouvelles technologies. Vous devez garder la recherche et le développement, l'innovation, en permanence. Il faut faire un effort considérable là-dessus et innover en permanence. Vous devez conserver l'assemblage, parce que là, vous conservez la maîtrise d'œuvre. Et vous pouvez faire évoluer un peu le produit aussi en fonction. Et vous devez conserver le marketing pour être à l'écoute du client. Car c'est le client et ses besoins qui vous fait évoluer le produit. Mais si vous lâchez l'assemblage, au jour ou l'autre, un Chinois, un Coréen, etc., vous prendra le produit. Et il le fera aussi bien que vous, et même mieux que vous, et moins cher.
Alors, on va bientôt arriver vers la fin. Est-ce qu'il faudra passer par une, comme beaucoup le pensent, pas beaucoup dans nos politiques, mais enfin, beaucoup d'économistes commencent à y penser, par une période de protectionnisme. Et est-ce que ce protectionnisme doit être européen ou purement français ?
On peut pas faire de protectionnisme français. On peut prendre des dispositions sans le dire. Les normes. Ce qu'il faudrait d'abord, c'est que ce qui est très grave, c'est que depuis 20 ans, la fonction publique et la haute fonction publique a basculé, c'était un mouvement de bascule considérable. C'est-à-dire qu'avant, on peut dire qu'ils avaient des visions bien étatistes. Hein. Et puis là, c'est devenu des libre-échangistes forcenés. Et cette génération de hauts fonctionnaires, pour elle, l'intérêt national, ils s'en fichent. En plus, c'est vrai qu'il faut obéir aux règles de Bruxelles, aux règles de ci, aux règles de ça, etc. Donc, autrefois, vous pouviez avoir le petit plus. Au moment du choix, on privilégiait plutôt l'entreprise de proximité que celle qui était très très loin. Là, c'est presque l'inverse. Et en plus, bon, on a des tas d'exemples. Hein, l'armée qui fait commander, qui commande ses uniformes, la poste pour les scooters, etc. C'est-à-dire qu'on est d'une incroyable naïveté. Car le coût est en fait faible. Le gain est marginal. Hein. Et en même temps, c'est vrai que le coût indirect est considérable. Parce que au fur et à mesure que vous fermez les usines, vous avez des chômeurs que vous devez indemniser. Bon. Et donc, plus de cotisations sociales, plus d'impôts, plus rien. Bon. C'est une vue à court. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que sur les marchés publics, il faut quand même qu'on reprivilégie quand même, peut-être, quand c'est à qualité égale, etc., des produits, disons, de proximité, au moins européens, et si possible français. Mais vous ne pouvez pas mettre de produits de barrière douanière aux frontières, c'est impossible, le traité de Rome ne le permet pas, c'est impossible. Bon. En revanche, au niveau européen, ce qui est compliqué, c'est que nos partenaires européens ne sont pas tous convaincus. Vous avez à Bruxelles une bande d'eurocrates quand même qui sont d'autant plus internationalistes, libre-échangistes que c'est pas eux qui subissent les conséquences. Hein. Ils sont payés net d'impôts et ils prennent des décisions dont ils ne subissent pas les conséquences. Hein. D'où les aberrations sur toutes les directives qu'on peut voir. Mais bien sûr qu'il faut j'aime pas le terme juste échange, tout ça, ça veut rien dire. C'est-à-dire, il faut pas être naïf. C'est-à-dire que il y a des dumpings qui ne sont pas acceptables. C'est vrai que ça ne sert à rien de demander une réévaluation du yuan parce qu'ils ne le feront pas. Mais en revanche, les normes de sécurité, quand vous avez des produits qui ne respectent pas les normes de qualité, les normes de sécurité, je pense aux jouets, tout ça, faut les bloquer, c'est tout. Et avec les Chinois. Je pense que le langage à avoir est un langage franc et musclé. C'est-à-dire qu'il faut les respecter. Il ne faut pas venir leur donner des leçons, notamment sur les droits de l'homme au Tibet ou ailleurs, parce que je pense qu'on n'a pas de leçons à donner. Hein. Mais en même temps, sur les sujets qui sont vitaux pour nous, il faut leur expliquer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'ils ne peuvent pas faire, et des lignes à ne pas franchir. Hein, et qu'il y a un minimum de réciprocité à obtenir.
Bah écoutez, on va en terminer là. Peut-être que Philippe Christel.
Non, mais simplement, c'est toute l'hypocrisie, puisque vous disiez en début de séance qu'on ne parlait pas assez de la campagne, etc. C'est que il faudrait qu'on ait des décideurs en politique qui disent soit c'est une compétition totalement assumée dans un modèle ultralibéral, et dans ce cas-là, on arrête de se payer un modèle français, un modèle social français au-dessus de nos moyens et qui fait vivre toute une partie de la population aux dépens des autres. Soit on considère que le modèle social français, il faut le défendre parce que c'est le fruit d'une histoire, d'une solidarité, d'une construction nationale. Et dans ce cas-là, il faut se bagarrer, il faut mettre des frontières, pas à la France, mais européenne. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui les conséquences, on a des conséquences pratiques désastreuses avec une idéologie totalement naïve et une théorie du renoncement. Et à un moment donné... Je cherche l'homme politique qui, je pense, peut-être décrochera la timbale en disant « Écoutez, voilà comment je joue. Voilà comment je joue. Mais au moins, j'affiche les règles. J'ai compris les règles du jeu et voilà ce que je veux faire. »
Vous pouvez toujours rêver.
Oui. C'est la merci à vous, Jean-Michel Quatrepoint. Je rappelle aux éditeurs le titre de votre livre, Mourir pour le Yuan, chez François Bourin, éditeur. Et c'est comment éviter une guerre mondiale. Donc il y a aussi quelques espoirs et quelques solutions à la fin. Voilà, nous allons faire une légère pause et retrouver toute l'actualité européenne avec Philippe Christel. Donc ne quittez pas Radio Courtoisie. Retour dans les chroniques de la vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie, notre deuxième partie avec Philippe Christel. Alors mon cher Philippe, quelle est l'actualité dans cette Europe qu'on vient de parler? Vous commencez par quoi?
Ouais, je voudrais faire deux coups de projecteur sur des zones du monde qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, mais qui concernent l'Europe, son avenir, son indépendance. Je trouve que on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois de la puissance, la présence et les inquiétudes autour du Qatar. Alors le Qatar, c'est pas un pays d'Europe, c'est le plus petit des États du Golfe, hein, il fait même pas 12 000 km², c'est le plus petit pays arabe en termes démographiques, mais c'est un des pays les plus riches. Bien évidemment, les plus riches, une richesse qui repose principalement un peu sur le pétrole et principalement sur la vente de gaz. Et le Qatar est aujourd'hui un pays dont l'influence est disproportionnée par rapport à sa taille, par rapport à ses capacités militaires. Mais en revanche, il a fait sienne cette fameuse devise, alors pardonnez-moi pour l'anglicisme, du soft power, hein, de Joseph Nye, on le connaît bien, on connaît bien cette stratégie, et donc le Qatar a mis en place cette stratégie et il la déroule tranquillement sur le sol européen, et je pensais que c'était intéressant pour nos auditeurs de faire un petit coup de projecteur sur le Qatar. Le Qatar, donc c'est là, dirigé par une famille qui s'appelle la famille Al-Thani, donc aujourd'hui l'émir actuel est au pouvoir depuis 1995, date à laquelle il a destitué son père, et quand... parce que c'est des choses qui se font, donc destituer son père dans une monarchie arabe. Et donc lui, il a dit, à peine arrivé à la tête du Qatar, il a dit, voilà, j'ai une stratégie, ce qui est clairement une stratégie de puissance, je l'oriente dans quatre directions, l'information, les investissements financiers, le sponsoring et la politique étrangère. Le premier élément, bien évidemment, du Qatar sur l'information, ça a été le lancement de la chaîne satellitaire Al Jazeera, formés à l'origine avec l'aide de journalistes formés par la BBC anglaise. Et donc, cette chaîne de télévision, officiellement indépendante, est largement au service de l'influence qatari. Et c'est-à-dire que elle est obligée, et pour être efficace, de d'être en permanence dans un équilibre assez subtil entre des débats politiques et le ménagement quand même du radicalisme religieux. C'est Al Jazeera qui relaie notamment en exclusivité les messages d'Al-Qaïda, qui soutient la résistance irakienne. Et quand j'entends la résistance irakienne, j'entends la résistance irakienne à la fois à l'oppresseur américain, mais aussi devant toutes les dérives laïcistes ou ce qu'il peut survivre de l'héritage bassiste, ou également donc la résistance du Hezbollah. Donc, premier élément, c'est cette arme de soft power, s'il en est, qui est la chaîne Al Jazeera, qui émet en arabe et en anglais dans un public tout à fait large, de l'Occident à l'Asie. La deuxième chose, c'est la stratégie d'influence par le financement. C'est le réinvestissement dans les économies européennes et particulièrement françaises de la rente gazière. Donc, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle le Qatar Investment Authority (QIA) et qui, alors c'est un fonds relativement modeste. Hein, il a 100 milliards de dollars d'avoir. Le fonds des Émirats Arabes Unis, c'est 620 milliards. Et donc, c'est ce fonds qui investit énormément en France. Alors, on a évidemment cité le rachat du club du Paris Saint-Germain, mais c'est également 10% du capital du Crédit Suisse, c'est 7,5% du capital de Volkswagen, et c'est plus récemment encore 10% du groupe Lagardère ou 6% de ADS. Le troisième élément, c'est moins connu, mais tout aussi efficace, ce sont les politiques de sponsoring. Donc il y a une fondation qui est la Qatar Foundation, qui est dirigée par l'épouse de l'émir et dont la vocation est de subventionner des projets sportifs et culturels, et notamment en utilisant le subventionnement et le soutien, pour ne pas dire sponsoring, structures d'influence dans les pays d'Europe et notamment en France. L'enjeu, c'est l'identification, la fidélisation de jeunes Français ou Américains prometteurs qui sont forcément d'origine arabe ou maghrébine, qui doivent être de confession musulmane. Rien que pour la France, en 2011, c'est 50 millions d'euros qui ont été alloués pour financer les projets économiques portés par les habitants des banlieues. Et l'ambassadeur qatari a annoncé fin 2011 que ce fonds sera encore augmenté.
Alors, je crois qu'il y a eu une annonce où on leur a demandé de freiner le temps de la campagne parce que ça commence à faire paniquer pas mal de monde.
Absolument, ça commence effectivement à inquiéter, d'autant que le dernier axe de la stratégie du Qatar, c'est l'axe diplomatique. Alors, le journaliste The Economist a expliqué que ça a caractérisé ça par diplomatie du tapis volant. Le principe du Qatar, c'est de se poser en permanence comme un champion de l'intermédiation géopolitique dans les crises. La libération des infirmières bulgares, c'est eux. Les rencontres autour des talibans et des principaux acteurs du conflit afghan sur leur sol, c'est eux. Les tentatives de réconciliation entre le Fatah et le Hamas, c'est eux. Et maintenant, ils sont présents sur les théâtres libyens et désormais syriens. Donc, bien évidemment, le Qatar agace, d'autant plus que, c'est là que c'est intéressant, c'est que le Qatar sait se montrer assez coulant avec les différents grandes puissances de la planète, notamment le Qatar ménage son influence vis-à-vis de l'Iran. D'abord parce qu'il a aucun intérêt à l'escalade avec l'Iran, puisqu'il partage principalement les plus grands gisements mondiaux de gaz à cheval sur leur frontière maritime. Et l'Iran n'a aucun intérêt, enfin le Qatar ne souhaite pas que l'Iran aille instrumentaliser les masses chiites qui sont installées sur les rives occidentales du golfe Persique. Le Qatar, comme Bahreïn qu'on a vu récemment, c'est un pays qui compte moins de 30% de nationaux. Principalement, les occupants du Qatar sont des migrants non-arabes, des Pakistanais, des Indiens, des Iraniens. Et donc, ce dont nous avons tous peur, disent les officiels qataris, c'est un scénario à la Bahreïn. Je rappelle que Bahreïn, donc, qui est le principal port d'attache de la flotte américaine dans le golfe Persique, a failli basculer comme les autres pays pris par les printemps arabes. Il n'a pas été donné aux autorités bahreïnies plus de latitude pour réprimer
que n'ont eu la chance d'en avoir les dirigeants tunisiens, libyens, égyptiens ou syriens. Et donc, aujourd'hui, le Qatar, bien que conciliant pour l'Iran, bénéficie du parapluie américain. Hein, donc, il y a une immense base militaire au Qatar qui s'appelle la base d'Al Udeid et qui est le quartier général avancé du commandement central américain pour les opérations au Moyen-Orient et en Asie centrale. Le Qatar continue à s'équiper. On a vu les Mirage 2000 de son armée de l'air intervenir en Libye. Bref. Il y a là un partenaire qu'il faut surveiller de près, puisque si on résume, il est présent sur le domaine de l'information, il finance des parts importantes de notre économie, il finance sur notre sol des projets et il se rend acteur incontournable d'un certain nombre de crises. Et vous savez que avec la paresse ou la simplicité des appareils diplomatiques européens fatigués d'essayer de prétendre à la puissance, on s'habitue vite avec ce type d'intermédiaire. Il faudra donc suivre de près la situation qatari avec les implications qu'elle a dans notre pays.
Surtout que notre diplomatie, elle, est vraiment très, très, très fatiguée. Autre chose.
Oui, un autre sujet que je n'ai rien à voir, mais que je trouve passionnant parce que ça va probablement redevenir un lieu d'enjeu et donc un lieu potentiellement de tension, d'affrontement. En tout cas, il faudra observer des choses. C'est l'Arctique. Donc, vous voyez, là, je passe des sables d'Arabie aux glaces du pôle et à la grande image des hyperboréens. Donc, c'est l'Arctique qui me passionne puisque, en gros, pour faire très court, le réchauffement climatique n'a pas que des inconvénients, à supposer qu'il en ait, c'est qu'il a en tout cas l'avantage d'ouvrir considérablement un certain nombre de passages, et notamment les fameuses routes maritimes du nord-est et du nord-ouest dans l'Arctique. L'Arctique, ça fait longtemps que c'est une cible pour les géographes. Les premières traces remontent au XVIe siècle, où on avait baptisé l'Arctique du nom de Détroit d'Anian, du nom d'un pays asiatique mentionné par Marco Polo. Et donc, très longtemps, on a cherché la route maritime du Nord-Est, alors qui existe aujourd'hui, et la route maritime du Nord-Ouest, j'y reviendrai. Pensez que si les fontes des glaces se prolongent pour le trafic maritime, cette zone devient un enjeu hautement stratégique puisque c'est une économie de quelques 8000 km par rapport à l'emprunt plus traditionnel des routes via le canal de Suez ou de Panama. 8000 km, on parlait tout à l'heure à l'occasion de la guerre de l'opium des satisfactions des armateurs. Vous imaginez bien que 8000 km, ça n'est pas neutre comme on dit vulgairement. Deuxième élément qu'on connaît sur l'Arctique, c'est bien évidemment que on imagine, alors c'est toujours très difficile d'avoir des certitudes, mais on imagine que la région arctique pourrait receler pas loin d'un quart des ressources mondiales d'hydrocarbures, c'est-à-dire en gros 30% du gaz naturel et 11% du pétrole. Là, ce sont des pourcentages par rapport aux réserves mondiales actuelles estimées. Je vous passe le détail sur la composition du sous-sol terrestre. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que jusqu'à peu, on avait très peu d'exploitation et que là, depuis 2010-2011, on voit une multitude d'accords entre les sociétés russes et américaines, un nouveau terminal pétrolier en mer de Barents, une nouvelle plateforme en mer de Mourmansk, Gazprom qui dit qu'il va tripler sa production annuelle d'ici 2020. Bref. Il y a là un certain nombre de choses et les Européens qui cherchent toujours à s'émanciper différentes sources énergétiques, principalement russes, pourraient très bien aller chercher en Arctique un certain nombre de choses. Alors ce qui est amusant, c'est que bien évidemment les contentieux frontaliers et d'influence ne manquent pas. Je rappelle que il y a depuis début des années 1920 un différend de souveraineté maritime en mer de Barents entre la Russie et la Norvège. Il y a un conflit juridique gelé, si j'ose dire sans jeu de mots, entre les États-Unis et le Canada. Alors c'est marrant parce que en plus, si vous voulez, ces conflits, enfin ces zones-là font naître des conflits entre des pays dont on ne pourrait pas imaginer qu'ils s'opposassent à ce point.
Oui, parce qu'au départ, tout le monde se
s'en arranger sans problème.
Absolument. Donc aujourd'hui, il y a un conflit de frontières, mais très classique, hein, au sens juridique du terme, entre les États-Unis et le Canada dans la mer de Beaufort. Il y a un conflit parce que le passage du Nord-Ouest est considéré par Washington comme un détroit international, mais par Ottawa, c'est considéré comme étant ses eaux intérieures, et donc on voit pas pourquoi il y aurait un problème. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait le plaisir des juristes, c'est que c'est la première fois que le conflit territorial sur la question de l'Arctique ne repose plus sur un classique droit de la mer, mais repose sur la continuité physique des fonds sous-marins par rapport au bloc continental auquel les pays appartiennent.
Les Russes sont assez forts là-dessus.
Ils nous ont fait le coup de l'expédition qui allait planter le drapeau.
On en avait parlé.
C'est une très belle image. Et donc, bien évidemment, il y a des tensions, d'autant plus que, contrairement à l'Antarctique, qui avait été déclarée une zone de non-prolifération, de non-prospection, eh bien l'Arctique n'est pas couvert par cette logique juridique. Donc la bagarre est organisée, la bagarre est faisable. Et puis enfin, dernier point, c'est que l'Arctique est une zone particulièrement militarisée et même nucléarisée. Elle était importante à l'époque de la guerre froide. Aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse du bouclier antimissile américain, la base américaine, alors qui porte un joli nom, c'est la base de Thule. Donc, elle vient d'être modernisée et elle est considérée par Washington comme l'un des principaux chaînons de son système général de protection. Et donc, il y a là un certain nombre de choses à faire. Les Russes et les Américains, ils testent en permanence des sous-marins. Les Français et les Anglais, qui maîtrisent les expériences de plongée polaire, continuent à utiliser les fonds arctiques comme champ d'entraînement et d'expérimentation. Bref, il y a un certain nombre de choses à faire. Alors, dernier élément, et pour l'anecdote, c'est que on parlait du soft power tout à l'heure, eh bien, il y a un autre enjeu qui est que les populations locales autochtones s'émancipent, et figurez-vous qu'on vient de voir assister à la création du Conseil circumpolaire inuit qui regroupe les quelques 150 000 Inuits qui vivent aux États-Unis, au Canada, en Groenland, c'est-à-dire au Danemark, et en Russie. Donc voilà, c'est intéressant parce que c'est une zone de tension, une parmi d'autres, qu'il va falloir surveiller. Les cartes sont pas exactement les mêmes que celles qu'on voit dans les oppositions classiques. Et là encore, on souhaiterait que la France définisse une stratégie. La France est pas totalement désintéressée de l'Arctique. Alors bon, on est présent par Saint-Pierre et Miquelon. Bon, c'est l'Arctique Sud-Sud.
C'est déjà ça.
Non, surtout, c'est que les Français font partie de ceux qui sont capables de mobiliser les capacités spécifiques, civiles ou militaires, pour intervenir ou pour assister un intervenant sur la zone arctique. Et puis, les Français font partie de ces pays d'Europe qu'une possibilité de sécurisation de l'approvisionnement énergétique via l'Arctique intéresse. Et donc, c'est intéressant parce que nous avons, je le redis, des moyens d'intervenir avec des capacités civiles et militaires que peu de pays ont à disposition, et ce serait là encore dommage de s'en priver.
Et je vous signale, mon cher Philippe, que grâce à notre site internet, nous avons des auditeurs à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 personnes qui ont déjà écouté nos émissions. Donc nous les saluons, ces habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vais vous laisser reprendre un peu le souffle. Il y a Lucien Valdès qui, en quelques minutes, va nous présenter une revue rapidement, parce que il est tout frais.
Une revue, c'est pas la même que d'habitude quand même. Qui va nous parler.
Et si, c'est le nouveau numéro d'Élément, c'est le 143, et je crois qu'il y a un spécial dossier pour Jean-Jacques Rousseau.
Voilà. En fait, les abonnés, me semble-t-il, vont le recevoir d'ici une semaine, 10 jours. C'est un numéro spécial, d'Éléments, sur Jean-Jacques Rousseau. Alors, c'est très curieux parce que, comme d'habitude, la revue Éléments prend à rebousse-poil. C'est-à-dire que vous savez que c'est le tricentenaire cette année.
Ah oui, 1712-2012. Voilà.
Et Jean-Jacques Rousseau n'étant pas une lecture habituelle de Radio Courtois, courtoisie. Disons que l'élément l'a tiré du côté du révolutionnaire conservateur, de l'adversaire des Lumières. Donc il n'y a pas que ça. C'est un dossier qui je me semble-t-il, assez passionnant. Et puis il y a aussi, et ça, ça va peut-être plus intéresser Philippe Christel, une interview de Richard Labévière, qui veut démanteler la Syrie. C'est donc Richard Labévière, vous savez, c'est l'ancien rédacteur en chef de RFI et de TV5, qui est un spécialiste reconnu du monde arabe, qui avait eu quelques petits problèmes.
Oh bah, petit problème, il s'était fait virer pour prise de position un peu...
Et donc voilà.
La manière dont le conflit en Syrie évolue est très intéressante. Oui. Est très intéressante et quand on parce que il y a des parallèles qu'il faut faire quand on regarde la rébellion Touareg dans le nord du Mali et son alliance avec Al-Qaïda, c'est-à-dire que on continue à avoir les effets de bord de ces fameuses révolutions arabes qui ont amusé tout le monde. On s'est pas rendu compte qu'après avoir liquidé Kadhafi, attrapé son fils, bombardé 2-3 trucs, on avait juste laissé dans le désert des cohortes entiers de types avec des Range Rover, des Toyota, des mitrailleuses et des stocks d'armes ex-soviétiques qu'ils avaient récupérés partout. On n'a pas fini d'assister à cette déstabilisation là.
Philippe Christel, vous avez entièrement raison et je crois que ce serait peut-être bon dans les prochaines mois, de recevoir Richard Labévière.
Je me demande, mais j'en suis pas sûr.
Qui a une vision sur ce pays, qui connaît bien, il a d'ailleurs écrit un livre.
C'est vrai qu'on sortira un peu de l'Europe, mais enfin, oui, ça sera pas la première fois.
Un topo sur la Syrie, sur Radio Courtoisie, je prédis l'inondation de messages.
Ouais, ça y a énormément de chance.
Bon, en tout cas,
pourquoi pas.
C'est le numéro 143 d'éléments. Il sera en kiosque d'ici, la semaine prochaine. Et donc, voilà.
Et puis, puisqu'on parle de revues, je voudrais donner un petit coup de chapeau à nos amis de Monde et Vie qui ont eu l'indulgence et la patience de solliciter les chroniqueurs de la Vieille Europe au sujet de la réélection de Vladimir Poutine.
Exactement. Il y a signé un très bel entretien.
Entretien. Non, parce que là on est en train de se faire. Je vous explique pas sur le problème de l'anglais. Là, ça va être une véritable catastrophe.
Oui, c'est pas grave.
On mettra beaucoup d'argent. On mettra même des billets aujourd'hui dans
livres sterling. Petit écho parce que c'était quand même drôle. On parlait de campagne. Là, je m'adresse à. Je pense à la campagne de électorale américaine et aux primaires du Parti républicain. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette déclaration du 27 mars dernier de Mitt Romney. Mitt Romney, qui est quand même a priori le favori, c'est probablement lui qui va être le candidat républicain et qui va se prendre probablement une grosse fessée devant Barack Obama, mais il a le droit d'essayer. Et alors, probablement pour essayer de rallier les électeurs, il s'est senti obligé de parler de la Russie comme de l'ennemi numéro un des États-Unis. Il faut quand même le faire. Bon, c'est l'Iran qui a dû soupirer, qui a dû souffler un coup, parce que pour une fois, c'est pas tombé sur eux. Donc voilà, enfin, on est quand même dans la situation que l'on vit. On trouve quand même un potentiel futur président des États-Unis capable de parler de la Russie comme de l'ennemi numéro un des États-Unis. Ça fait quand même froid dans le dos. Bon, je vais pas devenir Obamaniaque, mais enfin quand même. Alors ce qui est rigolo, c'est que pour le coup, le président Medvedev a été assez décontracté et a déclaré devant les journalistes que quant aux clichés idéologiques, quand une partie utilise des poncifs tels que l'ennemi numéro un, ça sent le cinéma d'Hollywood et une certaine époque. Je trouvais que c'était assez drôle que Medvedev utilise le cinéma d'Hollywood pour décrédibiliser le pitre Romney. Autre élément, puisqu'on est dans le monde anglo-saxon, je voudrais parler de l'Angleterre. Je ne sais pas si je vais en dire du bien ou du mal. Qu'en pensez-vous ?
Comme vous voulez.
Allez, je vais en dire du bien. Ça arrive pas tous les jours. Je trouve que ils sont quand même bons dans l'affaire des Malouines.
Ah oui,
je m'explique.
Ah oui, oui. Là, vous allez dire du bien sur les Malouines.
D'accord. Je m'explique.
Donc sur les Falklands.
Les Falklands, donc.
Écoutez-moi, c'est les Malouines. Hein. C'est marqué Malouines, c'est les Malouines.
Les Malvinas.
Honneur aux découvreurs de Saint-Malo. Ce serait pas la première île qu'on aurait découverte.
À partir du moment où vous dites du bien des Anglais, eux, ils les appellent les Falklands. Hein. Donc,
je vais parler je vais dire du bien des Anglais au sujet des Malouines.
Allez-y.
C'est bon. Je trouve que il y a quand même, donc parce que ça fait là aussi, hein, c'est il y a 30 ans, l'hommage était aujourd'hui. Il y a eu 650 Argentins qui ont été tués, il y a eu 300, un peu moins de 300 Britanniques. Les Britanniques se sont conduits vis-à-vis des Argentins de manière totalement ignoble, comme seuls les Britanniques, dans un complexe de supériorité et sur un pays du tiers-monde, sont capables de traiter les gens. Enfin, ils ont considéré ces Britanniques comme ils auraient traité des civils allemands, c'est vous dire. Donc, mais en revanche, ce qu'on peut dire quand même, c'est que on est aujourd'hui dans un système où l'Europe veut. On dit que l'Europe doit sortir de toute puissance tutélaire. Aujourd'hui, l'Europe, c'est de l'économie et rien d'autre. Eh bien, mine de rien, sur le petit caillou. Alors, c'est un caillou qui n'est pas sans intérêt, puisque il y a le symbole, mais il y a également les ressources halieutiques, il y a également les ressources pétrolières. On est en train de découvrir des gisements fantastiques.
On en parlait déjà même.
Les Anglais,
au moment de la Première Guerre,
ils tiennent bon. Voilà, ils tiennent bon, ils baissent pas ni le pavillon ni le reste, et je trouve que alors ils font attention, ils veulent pas blesser, mais enfin ils ont fait les hommages qui convenaient, et même s'il y a des bruits de bottes ou des bruits de poncho du côté des Argentins, les Anglais ne se laissent pas impressionner, même s'il est probable qu'ils n'ont pas la capacité de réaction qu'avait Margaret Thatcher à l'époque. Mais qu'en sais-je ? En tout cas, ils montrent qu'ils ne sont pas prêts à abandonner. Et quelque part, c'est une petite partie de cet esprit européen qui a gouverné le monde assez longtemps, qui flotte encore sur les drapeaux des Malouines, des Falklands. Et je voulais le signaler, je ne suis pas certain que la France pour la Nouvelle-Calédonie, par exemple, se conduise de la même manière. Et donc, ça fait plaisir. Et puis, les Malouines, c'est quand même un des endroits où on a testé nos exocètes. Bon, c'est quand même un bon souvenir pour l'industrie de défense.
Pour compléter ce que vous dites, la stratégie des Argentins aujourd'hui est un peu différente. Ils ne vont plus au conflit. Ils passent maintenant par les organismes internationaux, dont l'ONU, etc.
Et les Américains.
Et veulent mettre dans le bain en expliquant que les Malouines, ça appartient à toute l'Amérique du Sud. Donc ils sont en train de se faire des alliés autour d'eux. Et les Anglais seront peut-être un jour ou l'autre obligés de s'expliquer un peu plus. De là qu'il y ait une nouvelle guerre, je ne pense pas. Mais si on commence à avoir des tests positifs pour du pétrole dans le coin, parce que ce qui est le plus intéressant, ce sont les mers qui sont autour de ce caillou. Autre chose, allez, mon cher
une
Philippe.
Dernière chose, une bonne nouvelle, c'était pour vous donner une bonne nouvelle de la santé des parachutistes russes. Figurez-vous qu'ils sont en pleine forme, les parachutistes russes. Ils avaient un problème. Non, mais ils y vont de mieux en mieux.
Ah bon, bah.
Ils ont réalisé 200 000 sauts en parachute en 2011. C'est 50 000 sauts de plus qu'en 2010. Je tiens à vous dire que le palmarès revient aux parachutistes de la 7e division d'assaut par air, spécialisée montagne.
Je pense que cela, l'émission. Ils sont...
Oui, mais c'est important. France. Oui, mais je tiens à le dire. Et donc, spécialisée montagne, ça veut dire Caucase, hein. Donc la réforme de l'armée russe, on sait, elle n'est pas terminée, mais en tout cas, s'agissant des paras, l'intensification de l'entraînement et l'augmentation du nombre d'exercices témoignent bien de sa montée en puissance, et quand le para va, tout va.
Mais vous êtes abonné au magazine
abonné
Paramag,
à l'amicale du para du Caucase, si
d'accord.
Vous voulez savoir.
Non, mais ça nous donne des informations qu'effectivement on ne trouvera nulle part ailleurs.
15 jours pour un exercice de saut de nuit. Pour rien vous cacher.
C'est terminé, mon cher Philippe.
Vous n'avez plus rien.
J'ai d'autres choses, mais je ne peux plus rien dire là.
On va terminer en beauté.
Donc, pour rappeler à nos auditeurs, nous avons reçu dans cette première partie Jean-Michel Quatrepoint pour Mourir pour le Yuan. Comment éviter une guerre mondiale? C'est aux éditions François Bourin, éditeur. Et je vous conseille fortement ce livre. Et Lucien Valdès nous a présenté le nouveau magazine, le nouveau numéro d'Éléments qui va sortir d'ici, je pense, une dizaine de jours, qui sera le numéro 143 avril-juin, avec un dossier sur Jean-Jacques Rousseau parmi nous, dû à l'anniversaire du tricentenaire 1712-2012, la révolution conservateur et l'adversaire des Lumières. Alors, en vous écoutant tout à l'heure, Philippe, je me suis aperçu, étant d'une ignorance crasse sur Rousseau, qu'il est grosso modo l'un
un des inventeurs, enfin celui qui a le plus promu le suffrage direct, oui, la démocratie directe. Et j'ai vu qu'il y avait une magnifique photo, vous savez, de ces grandes assemblées suisses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça.
Ah oui, au fin fond d'une vallée ou d'un canton.
Qui sont. Alors, on peut pas le montrer à l'antenne, mais je le montre simplement pour notre ami Philippe Christel. Mais si vous allez sur le site de Facebook de la Vieille Europe, vous trouverez cette photo magnifique de ce vote direct. Et j'aimerais bien que nos politiciens en prennent de la graine. Donc, c'est le prochain numéro d'Éléments qui vient de sortir. Ben voilà, écoutez. Alors, on n'a jamais terminé aussitôt.
Oui, non, mais on aurait pu saluer les Suisses. Donc, effectivement. Ne serait-ce que pour que cette belle photo de la Landsgemeinde, donc il faut acheter ce numéro d'Éléments, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des belles photos comme ça. Mais on aurait pu saluer quand même ce référendum, cette votation suisse sur les semaines de congés payés. C'était quand même extraordinaire.
Ah oui, c'est vrai.
C'est quand même extraordinaire. C'est sûr que quand on écoute.
Rappelez pour les auditeurs.
Oui,
les Suisses ont voté pour.
Il y a 3 semaines, il y a eu une votation à l'initiative des syndicats suisses et des partis de gauche pour dire, écoutez, quand même, bonnes gens, vous avez 4 semaines de congés payés, c'est quand même pas des masses, il faudrait passer à 6. Eh bien, la votation a été rejetée à plus de 60%. C'est quand même surréaliste. Enfin, surréaliste. Ça fait envie. Quand on entend...
Moi,
ça me fait envie, je peux vous dire. Mais ça, quand on entend le Mélenchon de comptoir vous expliquer qu'en gros, on donne pas assez de ceci, pas assez de cela, qu'on travaille trop, que ceci, que cela... Enfin, on voit la compétition dans laquelle on est placé, enfin, les Suisses n'ont juste pas envie de crever dans la civilisation des loisirs et de la cistana. Et je trouve que... tôt ou tard, il faut quand même pas se leurrer, tôt ou tard, si ce sont des modèles à la grecque qui nous pendonnaient, alors on tombera peut-être pas les premiers, mais ça va se terminer comme ça. La société de loisirs sans argent pour en profiter, ça n'a qu'un temps. Et donc... Là, on avait dépassé le cas de la Landsgemeinde, mais...
Non, mais si, parce que le modèle... c'est les citoyens qui débattent, et qui votent des affaires du canton à main levée. Et c'est cette filiation à travers la votation, cette votation par exemple, qui moi me semble intéressante. L'authentique démocratie qui est intéressante.
Il y a 2 volants dans cette démocratie. Il y a à la fois le fait que on a régulièrement retour au référendum, donc
voilà,
mais c'est surtout c'est qu'il y a le droit d'initiative.
Oui, voilà.
C'est le droit d'initiative. Alors là, on est en train de nous pondre je ne sais quoi. Ça y est, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, quand 1 million de citoyens se sont saisis d'un sujet, on peut avoir droit à un débat au Parlement européen. Enfin, tous rigolades.
En tout cas, c'est un sujet d'émission parce que je salue tous nos auditeurs suisses. On est énormément écoutés en Suisse sur notre podcast et on fera bien sûr un spécial Suisse un jour ou l'autre.
Exactement. Il y a un double sujet, c'est la démocratie directe et on l'avait abordé, souvenez-vous, avec Étienne Chouard qui était venu. Ouais. Et puis l'autre sujet, c'est aussi la Suisse, quoi, tout simplement.
La Suisse et voir que la place financière suisse qu'on nous raconte, qui nous pique notre argent, est en train de se faire manger par les Américains qui ont honteusement honteusement attaqué la banque l'UBS. Et aujourd'hui, un livre sur l'UBS est sorti. Et je pense qu'il faudra un jour rendre la dignité à nos amis suisses. Je vous laisse.
Ils ont courage de nous écouter aussi tard, parce qu'avec 4 semaines seulement de congés par an, ils doivent être bien fatigués.
Merci à vous, Philippe Christel du Cerval d'Est. Nous nous retrouverons dans 4 semaines. D'ici là, vous pourrez retrouver notre émission sur le site vieilleeurope.fr ou la réécouter jeudi soir. Bonne soirée sur Radio Courtoisie. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. This'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side.